Salut, Mérine.
Ciri flotte dans les semi-ténèbres de son tombeau. L'enregistrement au loup n'est pas parfait. Il y a une zone de flou sur les bords. Mais c'est bien Ciri qui est devant moi. Ciri telle que je l'ai vue pour la dernière fois, avec ses cheveux gris presque ras, la tête droite, le visage rendu anguleux par les ombres.
Salut, Mérine, mon amour.
Salut, Ciri, lui dis-je.
La porte du tombeau est fermée.
Je suis désolé de ne pouvoir participer avec toi à notre 7e réunion, Mérine. J'attendais tellement ce moment.
Elle marque un temps d'arrêt et regarde ses mains. L'image vacille légèrement tandis que la poussière danse à travers elle.
J'avais soigneusement préparé ce que je voulais te dire, reprend-elle,
et la manière de te le faire savoir, ainsi que les arguments à faire valoir et les instructions à donner. Mais je sais maintenant que cela ne servirait pas à grand-chose.
Ou bien j'ai déjà dit ce que j'avais à te dire, et tu l'as entendu, ou bien il n'y a plus rien à dire.
Et le silence est la meilleure des choses en cette circonstance. La voix de Ciri est devenue encore plus belle avec l'âge. Elle est d'une plénitude et d'un calme que seule la douleur peut impartir. Elle écarte les mains, jusqu'à ce qu'elles disparaissent sur les bords de la projection.
Mérine, mon amour, comme nos jours ensemble ou séparés ont été étranges. Comme le mythe qui nous unit est à la fois beau et absurde. Mes jours pour toi n'ont été que des battements de cœur. Il m'est arrivé de te haïr pour cela. Tu étais un miroir qui ne ment pas. Si tu avais vu ta tête au début de chacune de nos réunions, tu aurais pu au moins essayer de cacher le choc que cela te faisait. Tu aurais pu faire au moins ça pour moi. Mais dans ta naïveté maladroite, il y a toujours eu, je ne sais pas, quelque chose, Mérine.
Quelque chose qui compense l'égoïsme et la dureté qui vont si bien avec toi.
Un sentiment, peut-être.
Ou bien au moins le respect d'un sentiment. Ce journal contient des centaines, des milliers de lignes, Mérine. Je le tiens depuis l'âge de 13 ans. Mais lorsque tu l'auras entre tes mains, j'aurai tout effacé à l'exception de ce qui suit.
Adieu, mon amour.
Adieu. J'éteins le persoc et je demeure assis quelques minutes dans un profond silence. Les bruits de la foule à l'extérieur sont presque entièrement étouffés par les murs épais du tombeau. Je prends une longue inspiration et j'appuie de nouveau sur le disque. Ciri apparaît, elle a presque 50 ans. Je reconnais immédiatement l'endroit et le jour où elle a fait cet enregistrement. Je me souviens de son manteau et de la pierre d'anguille qu'elle porte en pendentif autour du cou. Je me souviens même de la mèche de cheveux qui a échappé à sa barrette et qui tombe en ce moment même sur sa joue. Je n'ai rien oublié de cette journée-là, qui était la dernière de notre 3e réunion. Nous nous trouvions en compagnie de quelques amis sur les hauteurs de Tern. Donnel avait alors 10 ans. Nous nous efforcions de le convaincre de se laisser glisser sur la neige avec nous. Il pleurait. Ciri se retournait brusquement avant même que le glisseur se pose. Lorsque Magritte est descendue, nous avons tous compris, en voyant la tête que faisait Ciri, qu'il était arrivé quelque chose. Ce sont les mêmes visages qui me regardent en ce moment. Ciri écarte machinalement la mèche rebelle. Ses yeux sont rougis par les larmes, mais elle maîtrise sa voix.
Mérine, ils ont tué notre fils aujourd'hui. Alon avait 21 ans et ils l'ont tué. Tu étais si bouleversée aujourd'hui, Mérine. Comment une telle erreur a-t-elle pu se produire? Ne cessais-tu de répéter? Tu ne connaissais pas vraiment Alon, mais j'ai lu la douleur sur ton visage lorsque nous avons appris la nouvelle. Ce n'était pas un accident, Mérine. Si rien d'autre ne survit, si aucun témoignage ne reste, si tu ne comprends pas un jour pourquoi j'ai laissé un mythe sentimental gouverner toute mon existence, que cela se sache bien. Ce n'est pas par accident que notre fils est mort. Il se trouvait avec les séparatistes lorsque la police du conseil est arrivée. Même alors, il aurait pu se sauver. Nous avions préparé un alibi ensemble. La police aurait cru son histoire, mais il a fait le choix de rester. Aujourd'hui, Mérine, j'ai vu que tu étais impressionnée par ce que j'ai dit à la foule en colère devant l'ambassade. Sache une chose, navigant. Lorsque je leur ai dit « le moment n'est pas arrivé de montrer votre colère et votre haine », c'était exactement cela que j'avais dans la tête, ni plus ni moins.
Le moment n'est pas arrivé. Mais il viendra un jour. Il viendra certainement. L'alliance n'était prise par personne à la légère à l'époque des derniers jours, Mérine. Elle n'est pas prise non plus à la légère aujourd'hui. Ceux qui l'ont oubliée vont avoir des surprises lorsque le moment viendra. Et il viendra à coup sûr. L'image disparaît pour faire place à une autre. Dans l'intervalle d'une fraction de seconde, le visage d'une Siri âgée de 26 ans se forme en surimpression sur les traits d'une vieille femme. « Je suis enceinte, Mérine. Cela me rend si heureuse. Il y a seulement 5 semaines que tu es partie et tu me manques terriblement. Dire que tu vas rester absente 10 ans, plus que ça sans doute. Pourquoi n'as-tu pas songé à me demander de partir avec toi, Mérine ? Je n'aurais pas pu le faire, mais j'aurais été si heureuse que tu me le demandes. J'attends un enfant, mon amour. Les médecins disent que ce sera un garçon. Je lui parlerai de toi. Un jour, peut-être, il naviguera avec toi dans l'archipel et écoutera le chant du peuple de la mer comme nous l'avons fait tous les deux ces dernières semaines. Tu les comprendras peut-être alors, Mérine. Tu me manques trop. Dépêche-toi de revenir, je t'en supplie. » L'image holo devient floue et se transforme encore. La jeune fille de 16 ans au visage congestionné a de longs cheveux qui retombent sur ses épaules nues et sur sa chemise de nuit blanche. Elle parle rapidement, d'une voix entrecoupée de sanglots.
« Navigant Mérine Aspic, je suis vraiment navrée pour ton ami, je t'assure. Mais tu es partie sans même dire au revoir. J'avais tant de projets pour toi et moi, tant d'espoir que tu nous aides. Tu n'as même pas dit un mot d'adieu. De toute manière, je me fiche pas mal de ce qui peut t'arriver. Je souhaite que tu retournes moisir dans tes ruchers puants de l'hégémonie. Tu peux y crever, ça m'est complètement égal. En fait, Mérine Aspic, je ne veux plus jamais te revoir, même si on me paye pour ça. « Adieu !»
Elle tourne le dos avant même que la projection ne prenne fin. Il fait maintenant nuit à l'intérieur du tombeau, mais le son subsiste quelques secondes. J'entends un petit gloussement étouffé et la voix de Siri, je ne peux pas dire quel âge elle a, qui murmure une dernière fois
« Adieu, Mérine. Adieu. »
Je murmure à mon tour en éteignant le disque.
« Adieu, Siri. »
La foule s'écarte pour me laisser passer lorsque je sors du tombeau en clignant des yeux. Je leur ai saboté le bon déroulement de leur programme officiel, et le pâle sourire qui flotte maintenant sur mon visage suscite des chuchotements d'indignation. Les haut-parleurs apportent les déclarations fleuries de la cérémonie jusqu'au sommet même de cette colline. J'entends l'écho des riches accents de la voix de l'ambassadeur.
« Le commencement d'une nouvelle ère de coopération !»
Je dépose le coffret sur la pelouse, et je sors le tapis au King. La foule se rapproche pour regarder tandis que je le déroule. Les couleurs sont passées, mais les fils de commande brillent comme du cuivre poli. Je m'assois au centre du tapis et fais glisser le lourd coffret derrière moi.
Seront suivis de beaucoup d'autres, jusqu'à ce que le temps et l'espace ne soient plus un obstacle.
La foule recule lorsque j'active les commandes de vol. Le tapis s'élève de 4 mètres. Je vois maintenant ce qu'il y a derrière le tombeau. Les îles sont de retour pour former l'archipel équatorial. J'en vois des centaines venant du sud, poussées par la brise.
C'est donc avec le plus grand plaisir que j'inaugure ce circuit en souhaitant la bienvenue à la colonie d'Alliance Maui au sein de la grande communauté de l'hégémonie humaine.
Le fil ténu du lasercom de la cérémonie grimpe au zénith. On entend un crépitement d'applaudissements, puis l'orchestre commence à jouer. Je plisse les yeux vers le ciel juste à temps pour assister à la naissance d'une nouvelle étoile. Une partie de moi-même savait, à la microseconde près, ce qui allait se passer. L'espace d'une fraction de seconde, la porte distance a fonctionné. Durant quelques millièmes de seconde, le temps et l'espace ont bien cessé d'être un obstacle. Puis, la force d'aspiration massive de la singularité artificielle a fait exploser la charge thermique que j'avais placée sur la sphère de confinement extérieure. Cette petite explosion n'a pas été visible. Mais une seconde plus tard, son rayon de Schwarzschild en expansion dévore cette enceinte, engouffrant 36 000 tonnes de dodécaèdres fragiles, continuant de grossir rapidement pour avaler des milliers de kilomètres cubes d'espace alentour. Et cela, c'est visible. Magnifiquement visible. Sous la forme d'une nova miniature qui brille d'un éclat blanc dans le ciel bleu sans nuages. L'orchestre cesse de jouer. Les gens courent se mettre à l'abri en hurlant. Ils n'ont pourtant aucune raison de s'affoler. Il y a une émission de rayon X qui vient du modulateur Distrance, tandis que celui-ci continue de s'affaisser sur lui-même. Mais ce n'est pas suffisant pour présenter un danger. L'atmosphère dense d'Alliance Maui protège la planète. Une seconde traînée de plasma devient alors visible lorsque le Los Angeles met un peu plus de distance entre lui et le trou noir miniature qui se résorbe rapidement. Le vent se lève et la mer devient houleuse. Il y aura d'étranges courants de marée cette nuit. Je voudrais dire quelque chose de profond, mais les mots ne viennent pas. De plus, la foule n'est pas d'humeur à m'écouter. J'essaie de me persuader que j'entends quelques acclamations mêlées aux cris de panique. Je pose la main sur les commandes, et le tapis Hawking file en direction de la falaise et du port. Un pervier qui se laisse paresseusement porter par les courants thermiques bat des ailes, désespérément, à mon approche. Je lui crie
« Qu'il vienne ! Qu'il vienne donc ! J'aurai 35 ans et je ne serai pas tout seul pour les recevoir ! Qu'ils viennent un peu s'ils en ont le courage ! »
Je laisse retomber mon poing fermé et je ris. Le vent fait voler mes cheveux et sèche la sueur glacée sur mon torse et sur mes bras. Il commence à faire plus froid. Je fais le point et mets le cap sur l'île la plus lointaine. Je suis impatient de retrouver les autres. Et j'ai encore plus hâte de parler au peuple de la mer, pour lui dire que le moment est enfin venu, que le requin peut maintenant nager dans les océans d'Alliance Maui. Plus tard, quand les batailles seront gagnées et que la planète leur appartiendra, je leur parlerai d'elle. Je leur chanterai la chanson de Siri. Les cascades de lumière du lointain spatial n'avaient pas cessé. On n'entendait aucun bruit à l'exception du vent sifflant sur les escarpements. Le groupe demeurait immobile, penché en avant, regardant l'antique Persoc comme s'il allait en sortir encore quelque chose. Mais il n'y eut plus rien. Le consul retira la micro-disquette et la mit dans sa poche. Sol Weintraub caressa le dos de son bébé endormi en disant « Vous n'êtes tout de même pas Mary Naspic ?»«
Non, » répondit le consul. « Mary Naspic a trouvé la mort pendant la rébellion. La rébellion de Siri. »
« Comment cet enregistrement a-t-il pu parvenir jusqu'à vous ?»
demanda le père Hoyt.
« Cet extraordinaire document ?»
À travers son masque de douleur, le prêtre était visiblement très ému.
« C'est lui qui me l'a remis, » déclara le consul.
« Quelques semaines avant d'être tué dans la bataille de l'archipel. » Il regarda les visages autour de lui où se lisait l'incompréhension.
« Je suis leur petit-fils, » expliqua-t-il, « le petit-fils de Siri et de Mérine. Mon père, le Donnel dont il est question dans cet enregistrement, a été le premier dirigeant du Conseil intérieur lorsque la planète Alliance Maui a été admise au sein du protectorat. Plus tard, il a été élu sénateur et a rempli ses fonctions jusqu'à sa mort. J'avais 9 ans ce jour-là sur la colline, devant le tombeau de Siri. J'en avais 20. Prêt à me joindre aux rebelles pour me battre, la nuit où Aspic est descendu sur notre île pour me parler seul à seul et m'interdire de faire une chose pareille.
« Vous auriez combattu l'hégémonie ?»
demanda Brown Lamia.
« J'aurais lutté jusqu'à la mort. J'aurais connu le sort d'un tiers de tous les hommes et d'un cinquième de toutes les femmes de la planète. Le sort des dauphins, des îles elles-mêmes, bien que l'hégémonie eût pris soin de les ménager le plus possible.
C'est un document bouleversant. » murmura Sol Weintraub. Mais je ne comprends pas ce que vous faites ici. Quel rapport avec ce pèlerinage Grichtek ?
Je n'ai pas encore terminé, déclara le consul. Écoutez la suite. Mon père était aussi faible que ma grand-mère avait été forte. L'hégémonie n'attendit pas 11 années locales pour revenir. Les vaisseaux torches de la force étaient en orbite avant la fin de la 5e année. Mon père assista passivement à la débâcle des vaisseaux trop hâtivement construits par les rebelles. Il continuait de prendre le parti de l'hégémonie, tandis que notre monde était assiégé. J'avais 15 ans lorsque j'ai assisté de loin, avec toute ma famille, du haut du pont supérieur de notre île ancestrale, à l'incendie d'une 12aine d'autres îles sur la mer. Les glisseurs de l'hégémonie embrasaient les flots de leurs bombes. Au matin, la mer était grise de cadavres de dauphins. Ma sœur aînée, Lyra, partit se battre aux côtés des rebelles dans les jours de désespoir qui suivirent la bataille de l'archipel. Des témoins oculaires ont rapporté sa mort, mais son corps n'a jamais été retrouvé. Mon père, après cela, n'a plus jamais mentionné son nom. 3 ans après le cessez-le-feu et l'entrée dans le protectorat, nous constituions, nous autres les colons des origines, une minorité sur notre propre monde. Les îles étaient apprivoisées et vendues aux touristes exactement comme l'avait prédit Mérine. Le site numéro 1 est aujourd'hui une agglomération de 11 millions d'âmes. Les ensembles résidentiels, les spires et les cités EM s'étendent sur toute la côte. Le port est un étrange souk où les descendants des premières familles vendent des œuvres d'art et des produits d'artisanat local à des prix exorbitants. Nous avons vécu quelque temps sur Tau Ceti Central lorsque mon père a été élu sénateur. C'est sur cette planète que j'ai achevé mes études. J'étais un fils modèle qui chantait les louanges de la vie dans le sein du Retz, étudiait l'histoire glorieuse de l'hégémonie humaine et se préparait à la carrière diplomatique. Mais pendant tout ce temps, j'attendais mon heure. Je retournais quelque temps sur Alliance Maui après mon diplôme. Je trouvais du travail sur l'île de l'administration centrale. Une partie de mes fonctions consistait à faire la tournée des centaines de plateformes de forage qui œuvraient sur les hauts fonds et à faire des rapports sur les complexes sous-marins alors en développement rapide. Je faisais également office d'agent de liaison avec les sociétés d'aménagement urbain venues de TC Carré ou de Sol Draconiseptem. Ce travail ne me plaisait guère, mais j'étais efficace et je souriais, tout en attendant mon heure. Je courtisais et épousais une descendante de l'une des premières familles, de la lignée de Bertol, le cousin de Siri. Après avoir brillamment passé l'examen du corps diplomatique, je demandais un poste à l'extérieur du Retz. Ce fut pour Grécha et moi le début d'une longue diaspora. Je fus un fonctionnaire très efficace. La diplomatie était innée chez moi. En moins de 5 années standard, je devins vice-consul. 3 ans après, j'étais consul à part entière. Tant que je resterai dans les confins, je ne pourrai pas m'élever plus haut. C'était cependant le choix que j'avais fait. Je travaillais pour l'hégémonie et j'attendais mon heure. Au début, mon rôle consistait à fournir aux colons l'aide technologique du Retz pour faire ce qu'ils excellent généralement à accomplir, c'est-à-dire détruire la vie autochtone. Ce n'est pas par hasard si, en 600 ans d'expansion interstellaire, l'hégémonie n'a rencontré aucune espèce considérée comme intelligente au regard de l'indice Drake-Turing-Chen. Sur l'ancienne Terre, il était depuis longtemps acquis que toute espèce ayant l'outrecuidance de mettre l'homme dans sa chaîne alimentaire était condamnée à l'extinction à brève échéance. À mesure que le Retz s'étendait, chaque fois qu'une espèce menaçait de rivaliser sérieusement avec l'intelligence humaine, cette espèce disparaissait avant même l'entrée en fonction des premiers modulateurs distance. Sur la planète Whirl, nous avons traqué les insaisissables zeppelins jusque dans leur tour de nuée. Il se peut qu'ils n'aient pas été intelligents selon les critères de la centralité ou du genre humain, mais ils étaient d'une beauté à vous couper le souffle. Quand ils sont morts, émettant des vibrations de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, leur message visuel incompris, isolé de leur congénère en fuite, la beauté de leur agonie était indescriptible. Nous avons vendu leur peau photoréceptrice à des firmes spécialisées du Retz, leur chair à des mondes comme Heaven's Gate, et nous avons réduit leurs os en poudre pour en faire des aphrodisiaques à l'usage des impuissants et des superstitieux d'une douzaine d'autres mondes colonies. Sur Garden, je servais de conseiller technique aux ingénieurs des archéologies qui drainaient le grand marécage, mettant ainsi un terme à l'existence des centaures des marais, dont le règne éphémère avait eu le tort de gêner les projets d'aménagement de l'hégémonie. Ils essayèrent bien d'émigrer vers la fin, mais les marches du Nord étaient beaucoup trop sèches pour eux. Lorsque je visitais de nouveau la région, quelques dizaines d'années plus tard, à l'époque de l'entrée de Garden dans le Retz, les ossements blanchis des centaures gisaient encore dans certaines parties des marches, comme des pétales décolorés de fleurs exotiques appartenant à une ère révolue. Sur Hébron, j'arrivais juste au moment où les colons juifs mettaient un terme à leur longue lutte avec les Alouites sénéchiens, ces créatures aussi fragiles que l'écologie sans eau de leur planète. Les Alouites étaient des empathes, et c'est notre cupidité et notre peur qui les a exterminés au même titre que notre incontournable exotisme. Mais sur Hébron, ce n'est pas l'extinction des Alouites qui m'a pétrifié le cœur. C'est le rôle que j'ai joué dans les événements qui ont causé la perte des colons eux-mêmes. Sur l'ancienne Terre, Il possédait un mot pour décrire ce que j'étais. Un collabo. Même si Hébron n'était pas ma planète natale, les colons qui s'y étaient réfugiés avaient été poussés par des raisons aussi évidentes que celles de mes ancêtres, ceux qui signèrent l'alliance de vie sur l'île de Maui, sur l'ancienne Terre. Mais j'estimais que mon heure n'était pas encore venue. J'attendais. Et durant cette attente, j'ai joué le jeu. Avec toutes ses conséquences. Ces gens me faisaient confiant. Ils finirent par croire ce que je leur racontais sur la gloire qu'il peut y avoir à faire partie de la communauté humaine, c'est-à-dire à entrer dans le Retz. Ils insistèrent pour qu'une seule ville soit ouverte aux étrangers. J'acceptais avec un sourire. Aujourd'hui, la Nouvelle Jérusalem abrite 60 millions de personnes, alors que le continent tout entier n'est peuplé que de 10 millions de colons juifs autochtones qui dépendent de la cité rétienne pour la majeure partie de leurs fournitures. Et cela durera une décennie au plus, sans doute bien moins. J'ai un peu craqué lorsqu'Hébron est entré dans le Retz. J'ai découvert l'alcool, l'antithèse bénie du flashback et du câblage mental. Grécha est restée avec moi à la clinique pendant toute la durée de ma cure. Curieusement, pour un monde judaïque, il s'agissait d'une institution catholique. Je me souviens du froissement des robes dans les corridors la nuit. Ma dépression s'est faite discrètement et loin de tout. Ma carrière n'en a pas souffert. C'est en tant que consul à part entière que j'ai pris mon poste sur Brescia avec ma femme et mon fils. Quel rôle délicat était le nôtre sur cette planète? Nous faisions continuellement de la corde raide. Depuis des décennies, vous le savez, colonel Kassad, les forces du technocentre harcelaient les essaims extro partout où ils trouvaient refuge. Les autorités constituées du Sénat et de l'Assemblée consultative des IA avaient décidé qu'il fallait tester, d'une manière ou d'une autre, les capacités militaires des extros dans les confins. C'est Brescia qui fut choisi. J'admets que les Bresciens se comportaient en dignes représentants de l'hégémonie avant mon arrivée. Leur société archaïque et caricaturale était de type prussien, militariste à souhait. Ils étaient particulièrement arrogants dans leurs prétentions économiques et poussaient la xénophobie au point de s'engager gaillardement dans l'armée afin de balayer la menace extro. Ils allèrent même, au début, jusqu'à affréter des vaisseaux torches pour attaquer les essaims, avec des engins au plasma, des sondes à impact et des virus modifiés. Et c'est à la suite d'une légère erreur de calcul que je me trouvais encore sur Brescia lorsque les hordes extro sont arrivées. Cela se joua à quelques mois après. Normalement, c'est une équipe d'analystes militaro-politiques qui aurait dû se trouver à ma place. C'était sans importance pour l'hégémonie dont les desseins étaient servis quand même. La résolution et les capacités de déploiement rapide de la force purent être testées comme il se devait sans que les intérêts de l'hégémonie en souffrent. C'est à ce moment-là que Grécha a trouvé la mort naturellement, lors du tout premier bombardement. Quant à mon fils, alors âgé de 10 ans, Alon, il se trouvait avec moi et il a survécu à la guerre, pour mourir bêtement quand un crétin de la force a placé un engin piégé ou une charge de démolition trop près des baraquements des réfugiés à Buckminster, la capitale. Je n'étais pas à ses côtés quand il est mort. Après Brescia, j'ai été promu. On m'a confié la mission la plus délicate et la plus passionnante que l'on pouvait donner à quelqu'un qui avait un simple rang de consul. Je devins l'agent diplomatique chargé de négocier directement avec les extros. Au début, je me transportais régulièrement sur Tau Ceti Central pour avoir de longs entretiens avec le comité du sénateur Gladstone et un certain nombre de conseillers IA. Je rencontrais Meina Gladstone en personne. Leurs intentions étaient assez compliquées. En gros, il fallait provoquer les extros afin qu'ils nous attaquent, et la clé de cette provocation était le monde d'Hyperion. Les extros observaient Hyperion depuis bien avant la bataille de Brescia. Nos services de renseignement disaient qu'ils étaient obsédés par les tombeaux du temps et par le Gritch. Leur attaque contre le vaisseau hôpital de l'hégémonie qui transportait entre autres le colonel Kassad était le résultat d'une méprise. Le commandant du vaisseau extro avait pris le bâtiment pour un vaisseau de spin militaire. Plus grave encore du point de vue extro était le fait qu'en donnant à l'ordre à ces vaisseaux de descente de se poser à proximité des tombeaux du temps, ce même commandant nous avait révélé ses capacités à défier les marées du temps. Après le massacre de ses commandos par le Gritch, le commandant du vaisseau Torche a été exécuté dès son retour aux essaims. Nos services de renseignement estimaient que la méprise des extros ne s'était pas soldée par un désastre total. Des informations capitales sur le Gritch avaient été obtenues. Et les extros étaient de plus en plus obsédés par Hyperion. Gladstone m'expliqua longuement comment l'hégémonie comptait tirer parti de cette obsession. Elle me fit comprendre que l'affrontement qu'elle voulait provoquer était une affaire concernant davantage la politique intérieure du Retz que les extros eux-mêmes. Des éléments du technocentre s'opposaient depuis des siècles à l'entrée d'Hyperion dans l'hégémonie. Ils ne faisaient plus cela, disait-elle, dans l'intérêt de l'humanité, et l'annexion en force de cette planète, sous couvert de défendre le Retz, donnerait l'occasion à des coalitions d'IA plus progressistes de renforcer leur pouvoir au sein du technocentre. Ces modifications de l'équilibre politique du centre seraient profitables au Sénat et au Retz, d'une manière qui ne me fut pas expliquée pleinement. La menace potentielle représentée par les extros serait définitivement balayée et une nouvelle ère de gloire s'ouvrirait pour l'hégémonie. Gladstone insista sur le fait que je n'étais pas obligé de me porter volontaire pour cette mission qui mettrait ma vie et ma carrière en péril, mais j'acceptais tout de même. L'hégémonie me fournit un vaisseau particulier. Je ne demandais qu'une seule modification dans son agencement, l'installation d'un vieux piano Steinway. Des mois durant, je voyageais en solitaire avec mes réacteurs Hawking. Je traversais pendant 4 mois des régions de l'espace où les essaims extros migraient régulièrement. Finalement, mon vaisseau fut détecté et capturé. Ils acceptèrent de me considérer comme un messager tout en sachant que j'étais là pour les espionner. Ils envisagèrent de m'exécuter mais ne le firent pas. Ils envisagèrent aussi de négocier avec moi et décidèrent finalement de le faire. Je n'essaierai pas de décrire la beauté de la vie à l'intérieur d'un essaim, ni leur cité globe à gravité zéro, ni leur agricomètes, ni leurs amas de propulsion, ni leur forêt micro-orbitale, ni leur rivière migratrice, ni les 10 000 couleurs et textures de la vie durant leur semaine de la jonction. Qu'il me suffise de vous dire ma conviction que les extros ont accompli ce que l'humanité n'a pas su faire depuis des millénaires. Évoluer. Pendant que nous continuons de vivre dans nos cultures dérivées, pâle reflet de la vie sur l'ancienne Terre, les extros explorent de nouvelles dimensions esthétiques, artistiques, éthiques ou bioscientifiques, tout ce qui change et qui est susceptible de refléter l'âme humaine. Nous les traitons de barbares, alors que c'est nous qui nous accrochons, timorés, à notre Retz, comme des Visigoths tapis parmi les ruines de la splendeur fanée de Rome, et c'est nous qui nous proclamons civilisés. En moins de 10 mois standard, je leur avais avoué mon plus grand secret, et ils m'avaient appris les leurs. Je leur expliquais avec autant de détails que possible comment leur extinction avait été planifiée par l'entourage de Gladstone. Je leur révélais le peu que les scientifiques du Retz comprenaient sur les anomalies présentées par les tombeaux du temps, et je leur fis part des craintes inexplicables entretenues par le technocentre à propos d'Hyperion. Je leur décrivis le piège mis en place, avec Hyperion pour appât, et les terribles conséquences qui en découleraient pour eux s'ils s'avisaient de vouloir occuper ce monde. Toutes les unités de la Force fondraient alors sur le système d'Hyperion pour les écraser. Ces révélations faites, je m'attendais une fois de plus à être mis à mort. Mais au lieu de m'exécuter, ils m'apprirent quelque chose. Ils me montrèrent des messages méga-trans interceptés, des enregistrements sur faisceaux étroits ainsi que leurs propres archives de l'époque où ils avaient eux-mêmes fui le système de l'ancienne Terre, 450 ans plus tôt. Les faits étaient d'une terrible simplicité. La grande erreur de 38 n'était pas un accident. La mort de l'ancienne Terre avait été délibérément provoquée, soigneusement préparée par des éléments du technocentre et par leurs homologues humains dans le gouvernement naissant de l'hégémonie. L'égir avait été prévu en détail des dizaines d'années avant que le trou noir erratique ne plonge accidentellement dans le cœur de l'ancienne Terre. Le Retz, la Pangermie, l'hégémonie humaine, tout cela avait été bâti sur le plus horrible des parricides. Et l'édifice se maintenait grâce à une politique tranquille et soutenue de fratricide, impliquant l'assassinat de toute espèce susceptible à un degré quelconque de devenir concurrente. Les extros, représentant la seule autre tribu humaine libre d'errer entre les étoiles, et le seul groupe en dehors de la domination du technocentre, étaient la prochaine cible sur la liste de l'extinction. Je retournais dans le Retz. Plus de 35 années en temps local avaient passé. Mayna Gladstone était devenue présidente. La révolte de Syrie n'était plus qu'une légende romantique, une parenthèse dans l'histoire de l'hégémonie. Je rencontrai Meïna Gladstone. Je lui fis part d'un grand nombre, mais pas de la totalité, des révélations que les extros m'avaient faites. Je lui dis qu'il savait que tout combat mené pour conquérir Hyperion ne pourrait être qu'un piège, mais qu'il viendrait quand même, et qu'il souhaitait que je sois nommé consul sur cette planète, afin que je puisse jouer le rôle d'agent double lorsque la guerre éclaterait. Ce que je ne lui dis pas, c'est qu'il m'avait promis de me donner un appareil avec lequel je pourrais ouvrir les tombeaux du temps et laisser le champ libre aux Gritch. La présidente eut de longues conversations avec moi. Les agents du renseignement de la force me questionnèrent longuement pendant des mois. Des drogues et des moyens technologiques furent utilisés pour vérifier si je disais bien la vérité et si je ne leur cachais rien. Mais les extros étaient également très forts dans ce domaine. Je ne disais que la vérité, mais pas toute la vérité. Finalement, je fus nommé sur Hyperion. Gladstone proposa de donner à ce monde le statut de protectorat et de me nommer ambassadeur, mais je déclinai les deux offres. La seule faveur que je demandais fut de conserver mon vaisseau particulier. Je fis le voyage à bord d'un vaisseau de spin régulier, et mon appareil arriva plusieurs mois après dans le ventre d'un vaisseau torche de passage. Il demeura sur une orbite d'attente, étant bien entendu que je pouvais le faire descendre et m'en aller avec à n'importe quel moment. Seul sur Hyperion, j'attendis. Des années passèrent. Je laissais mon adjoint gouverner cette planète des confins pendant que j'allais boire chez Cicéron et que j'attendais patiemment. Les extros finirent par me contacter sur leur mégatrans privé. Je pris un congé de 3 semaines, fis descendre mon vaisseau dans un endroit désert à proximité de la mer des Hautes Herbes, gagnai un lieu de rendez-vous situé dans la région du nuage d'Ouort, embarquai leur agent, une femme nommée Andil, et un trio de techniciens et redescendis me poser au nord de la chaîne bridée, à quelques kilomètres des tombeaux du temps. Les extros ne possédaient pas de distance. Leur existence se passait dans les vastes régions intermédiaires de l'espace interstellaire où ils voyaient passer la vie du Retz à toute allure, comme un film holo en accéléré. Le temps les obsédait. Le technocentre avait donné le modulateur distance à l'hégémonie, et c'était lui qui entretenait le réseau. Aucune équipe humaine, aucun spécialiste n'en comprenait exactement la théorie. Les extros avaient essayé d'élucider ce mystère, mais sans succès. Cependant, leurs recherches leur avaient permis de faire quelques percées dans la compréhension et dans la manipulation de l'espace-temps. Ils comprenaient, par exemple, le phénomène des marées du temps et des champs anentropiques qui entouraient les tombeaux. Ils n'étaient pas capables de reproduire ces champs, mais ils savaient se protéger d'eux et, théoriquement, provoquer leur effondrement. Les tombeaux du temps et leur matériel contenu cesseraient alors de vieillir à l'envers. Les tombeaux s'ouvriraient. Le Gritch romprait sa longe, il ne serait plus confiné au voisinage des tombeaux. Ce qu'il y avait d'autre à l'intérieur serait libéré. Les extros étaient convaincus que les tombeaux du temps étaient des artefacts issus de leur propre futur et que le Gritch était une arme de rédemption attendant pour la saisir la main adéquate. Le culte Gritchtek voyait dans le monstre un ange vengeur, tandis que les extros y voyaient un outil issu de l'imagination humaine et venu du futur pour délivrer l'humanité du technocentre. Andil et ses techniciens étaient là pour étalonner et mettre au point leurs appareils d'expérience. « Vous n'allez pas vous en servir maintenant, » demandai-je. Nous étions assis à l'ombre de la structure appelée le Sphinx.
« Pas tout de suite, »
me répondit Andil.
« Seulement lorsque l'invasion sera imminente. »
« Mais vous disiez qu'il faudrait des mois pour que ça marche et que les tombeaux commencent à s'ouvrir. » Andil acquiesça. Elle avait les yeux d'un vert très foncé, elle était extrêmement grande, et je distinguais les raies discrètes de son exosquelette motorisé à travers son collant.
« 1 an, ou même davantage, »
dit-elle.
« Ce dispositif détruira les champs anentropiques de manière graduelle. Cependant, une fois amorcé, le processus est irrévocable. C'est pourquoi nous attendrons, pour l'activer, que les 10 conseils aient décidé l'invasion définitive du Retz. »
« Il y a encore des doutes ?»«
Quelques débats d'éthique. »
À quelques mètres de nous, les 3 techniciens étaient en train de recouvrir les machines d'une toile caméléon et d'un champ de confinement codé.
« Une guerre interstellaire causera la mort de millions et peut-être de milliards de personnes, »
reprit Andil.
Lâcher le Gritch dans le Retz, c'est un acte qui peut être lourd de conséquences imprévues. Quel que soit notre désir de frapper le technocentre, Il y a des controverses sur la meilleure manière d'atteindre nos objectifs.
Je hochai lentement la tête tout en contemplant les techniciens au travail et la vallée des tombeaux qui s'étendait derrière eux. « Quand vous aurez activé le dispositif, murmurai-je, vous ne pourrez plus retourner en arrière. Le Gritch sera libéré et il vous faudra gagner la guerre pour le maîtriser. C'est bien cela ?» Andy eut un léger sourire.
« C'est bien cela, »
dit-elle. Je la tuai alors avec ses trois techniciens. Puis je lançai le laser Steiner Gin de grand-mère Siri le plus loin possible dans les dunes. Je m'assis sur un emballage vide en mousse lovée et je sanglotai durant quelques minutes. Je m'avançai alors vers le cadavre d'un technicien, lui pris son persoc, l'utilisai pour pénétrer dans le champ de confinement, dégageai les machines de leur toile caméléon et activai le dispositif. Il n'y eut pas de modification visible. L'atmosphère avait la même limpidité de fin d'hiver. Le tombeau de Jade brillait doucement tandis que le sphinx continuait de regarder le néant. Les seuls bruits qui parvenaient à mes oreilles étaient les crépitements du sable projeté par le vent contre les caisses et les cadavres. Seul un témoin lumineux sur une machine extro indiquait que le dispositif fonctionnait et avait déjà fait son œuvre. Je retournai lentement au vaisseau. Je m'attendais presque à voir surgir le Gritch. J'espérais à moitié qu'il allait apparaître soudain devant moi. Je demeurai assis sur le balcon de mon vaisseau durant plus d'une heure, à contempler les ombres qui emplissaient la vallée et le sable qui recouvrait peu à peu les corps. Mais le Gritch ne vint pas, et je ne vis pas le moindre arbre à épines. Au bout de quelque temps, je me mis devant mon Steinway et jouai un prélude de Bach, puis je bouclai le vaisseau et pris l'espace. Je contactai les extros pour leur dire qu'un accident s'était produit. Le dispositif s'était déclenché prématurément et le Gritch avait massacré les autres. Malgré la confusion et la panique que cette nouvelle provoqua chez eux, les extros proposèrent de m'abriter chez eux. Je déclinai leur offre. Puis je regagnai leur Hetz. Les extros ne me poursuivirent pas. J'utilisai mon Mégatrans pour contacter Gladstone et lui dire que les agents extros avaient été éliminés par mes soins. Je lui annonçai que l'invasion était extrêmement probable et que le piège fonctionnait comme prévu. Mais je ne lui parlai pas de la machine extro. Gladstone me félicita et m'invita chez elle. Je déclinai son invitation en expliquant que j'avais besoin de silence et de solitude. Puis je dirigeai mon vaisseau vers le monde des confins le plus proche du système d'Hyperion, sachant que le voyage en soi consumerait le temps nécessaire au commencement de l'acte suivant. Plus tard, lorsque l'appel au pèlerinage fut lancé par Gladstone en personne sur Mégatrans, je compris le rôle que les extros m'avaient réservé sur la fin. Les extros, ou bien le technocentre, ou encore Gladstone et ses machinations. Peu importe désormais qui se considère le maître des événements. Les événements n'obéissent plus à aucun maître. Le monde que nous connaissons est en train de prendre fin, mes amis, quoi qu'il puisse nous arriver. En ce qui me concerne, je n'ai aucune requête à présenter au Gritch, aucune déclaration finale à lui soumettre ni à soumettre à l'univers. Je suis revenu parce qu'il le fallait, parce que c'était mon destin. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours su ce que je ferais un jour. Je savais que je retournerais seul, me recueillir devant le tombeau de Siri, pour jurer qu'elle serait vengée de l'hégémonie. Je savais également quel serait pour moi le prix à payer, aussi bien au regard de ma vie que de l'histoire. Mais lorsque viendra le moment de juger, de comprendre une trahison qui se propagera comme un incendie à travers le Retz et qui causera la mort de planètes entières, je vous demande de ne pas penser à moi, car mon nom n'était même pas écrit dans l'eau, comme celui de votre poète disparu, mais de penser à l'ancienne Terre, qui est morte sans raison, et aux dauphins dont les carcasses grises ont pourri au soleil, et aussi aux îles mobiles que j'ai vues errer sans but, leurs eaux nourricières saccagées, leurs hauts fonds équatoriaux criblés de plateformes de forage, elles-mêmes surchargées de touristes braillards exhalant des odeurs de lotion solaire et de cannabis. Mieux encore, ne pensez à rien de tout cela. Restez comme je l'ai fait après avoir appuyé sur le bouton, assassin, traître, mais fier tout de même, campé sur le sol d'Hyperion, la tête droite, le poing levé vers le ciel, criant comme Mercutio, maudites soient vos deux maisons. Car voyez-vous, je n'ai pas oublié le rêve de ma grand-mère. je n'ai pas oublié comment les choses auraient pu être. Je me souviens de Ciri.
C'est donc vous l'espion ?
Fit le père Hoyt.
L'espion Extro ?
Le consul se frotta les joues sans rien dire. Il semblait épuisé, complètement à bout de force.
Ouais, grogna Martin Silenus. La présidente m'avait averti lorsqu'elle m'a désigné pour faire ce pèlerinage. Elle m'a prévenu qu'il y aurait un espion parmi nous.
Elle a dit cela à tout le monde,
fit sèchement Brand Lamia. Elle regarda le consul. Il semblait y avoir une certaine tristesse dans ses yeux.
Notre ami est donc un espion, murmura Sol Weintraub. Mais ce n'est pas seulement un agent des extros, ajouta-t-il en prenant dans ses bras le bébé qui venait de se réveiller et qui pleurait.
C'est ce que l'on appelle dans les séries d'espionnage un agent double et même triple dans le cas présent. Un agent de la régression totale. En réalité, un agent exterminateur.
Le consul leva les yeux vers le vieil érudit.
C'est quand même un espion, déclara Silenus. Et les espions, on les exécute, pas vrai?
Le colonel Cassade avait son bâton de la mort à la main, mais il n'était braqué sur personne en particulier.
Êtes-vous en contact avec votre vaisseau? Demanda-t-il au consul.
Oui.
De quelle manière?
Le Persoc de Ciri. Il a été modifié.
Cassade hocha légèrement la tête.
Et vous êtes resté en contact avec les extros par l'intermédiaire du mégatrans de bord?
Oui.
Pour les tenir au courant du pèlerinage, comme ils vous l'avaient demandé?
Oui.
Vous ont-ils répondu?
Non.
Comment croire à ce qu'ils racontent?
S'écria le poète.
C'est un putain d'espion! Taisez-vous!
Ordonna Cassade d'une voix impérative, sans quitter le consul des yeux un seul instant.
Est-ce vous qui avez attaqué Etmastin?
Non,
répondit le consul.
Mais lorsque l'Yggdrasil l'a brûlé, j'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas.
Que voulez-vous dire?
Demanda Cassade. Le consul s'éclaircit la voix.
J'ai eu l'occasion de fréquenter plusieurs voies de l'arbre des Templiers. Leur relation à leur vaisseau-arbre est quasi télépathique. La réaction de Mastin a été beaucoup trop faible. Ou bien il n'était pas ce qu'il prétendait être, ou bien il savait que le vaisseau allait être détruit, et il avait coupé tout contact avec lui. Pendant mon tour de garde, je suis descendu dans l'intention de lui poser quelques questions. Il n'était plus là. Sa cabine était dans l'état où nous l'avons trouvée, à part le fait que le cube de Mobius était à l'état neutre. L'ergue aurait pu s'échapper. J'ai remis la sécurité et je suis remonté.
Vous n'avez rien fait à Etmastin ?
Demanda de nouveau Cassade.
Non.
Encore une fois, pourquoi devrions-nous le croire ?
Demanda Silenus. Le poète tenait à la main sa dernière bouteille de scotch, déjà bien entamée. Le consul y posa les yeux tout en répliquant.
Vous n'avez aucune raison de me croire, en effet, et cela n'a pas la moindre importance.
Les longs doigts effilés du colonel Cassade pianotèrent sur le manche de son bâton de la mort.
Qu'allez-vous faire maintenant avec le Mégatrans ?
Demanda-t-il. Le consul prit une longue inspiration lasse avant de répondre.
Je dois leur indiquer à quel moment précis les tombeaux du temps s'ouvriront. Si toutefois je suis encore en vie à ce moment-là.
Brand Lamia désigna l'antique Persoc.
Nous pourrions le détruire, dit-elle.
Le consul haussa les épaules.
Il pourrait nous être utile,
fit le colonel,
en nous donnant accès aux conversations civiles et militaires transmises en clair. D'autre part, nous pourrions faire venir ici le vaisseau du consul en cas de besoin.
Non !
S'écria le consul.
Nous ne pouvons pas retourner en arrière maintenant.
C'était le premier signe d'émotion qu'il manifestait depuis plusieurs minutes.
Personne ici, je pense, n'a l'intention de retourner en arrière,
déclara Cassade. Il fit du regard le tour des visages là qui l'entouraient. Personne ne parla pendant un bon moment.
Il faut que nous prenions une décision, murmura enfin Sol Weintraub en hochant le menton vers le consul, tout en continuant de bercer son bébé. Martin Silenus avait le front posé contre le goulot de sa bouteille à présent vide. Il releva la tête en disant
« La trahison est punie de mort. De toute manière, »
il gloussa,
« nous allons tous mourir dans quelques heures. Pourquoi notre dernier acte ne serait-il pas une exécution ?»
Le père Hoyt fit une grimace, visiblement sous le coup d'un spasme de douleur. Il porta un doigt tremblant à ses lèvres gercées.
« Nous ne sommes pas une cour de justice. »
« C'est faux, » lui dit Cassade. « Nous en sommes une. » Le consul se pencha en avant, les jambes repliées sous lui, et posa les avant-bras sur ses cuisses, les doigts noués.
« Vous n'avez qu'à décider, »
dit-il d'une voix qui ne laissait transparaître aucune émotion. Brown Lamia avait sorti l'automatique de son père. Elle le posa par terre, près de l'endroit où elle était assise. Ses yeux allaient sans cesse du consul à Cassade.
« Qui peut parler de trahison ici ? » demanda-t-elle. « Trahison envers quoi ? Aucun de nous, à l'exception peut-être du colonel, ne peut être considéré comme un citoyen exemplaire. Nous sommes tous les jouets de force qui nous dépassent. »
Sol Weintraub s'adressa alors directement au consul.
« Ce que vous ignoriez, mon cher ami, c'est que Mayna Gladstone et certains éléments du technocentre, lorsqu'ils vous ont choisi comme émissaire auprès des extros, savaient parfaitement de quelle manière vous alliez réagir. Peut-être ne pouvaient-ils pas deviner que les extros connaissaient le moyen d'ouvrir les tombeaux du temps, bien que, avec les IA du technocentre, on ne puisse jamais savoir. » Mais ils avaient certainement prévu que vous vous retourneriez contre les deux civilisations à la fois, les deux camps qui ont fait du mal à votre famille. Tout cela fait partie de je ne sais quel plan bizarre. Il est évident que vous n'aviez pas plus de libre arbitre en la matière que...
Il souleva son bébé,
cet enfant.
Le consul parut désorienté. Il voulut dire quelque chose, mais se ravisa et demeura muet, se contentant de hocher la tête.
« Il se peut qu'il ait raison, »
admit le colonel Cassade.
« Néanmoins, même si nous ne sommes tous que des pions sur un échiquier, nous nous devons d'être responsables du choix de nos actions. »
Il leva les yeux vers le mur, où des pulsations de lumière venues de la lointaine bataille spatiale peignaient sur le plâtre blanc des motifs rouge sang.
« À cause de cette guerre, » reprit-il, des milliers, peut-être des millions de gens vont mourir. Et si les extros ou le Gritch ont accès au système d'istrance du Retz, des milliards de vies sur des centaines de mondes seront menacées.
Le consul le regarda tranquillement, tandis qu'il levait vers lui son bâton de la mort.
« Ce serait la solution la plus rapide pour tout le monde, » reprit Cassade. « Le Gritch, lui, ne connaît pas la pitié. »
Personne ne disait rien. Le regard du consul semblait fixé sur un point extrêmement éloigné. Cassade remit la sûreté et glissa le bâton à sa ceinture.
« Nous sommes arrivés jusqu'ici ensemble, » dit-il. « Nous ferons le reste du chemin ensemble. »
Brown Lamia rangea le pistolet de son père, se leva, traversa l'espace qui la séparait du consul, s'agenouilla devant lui et lui passa les bras autour du cou. Pris au dépourvu, il leva un bras pour l'arrêter, tandis que la lumière dansait sur le mur derrière eux. Un instant plus tard, Sol Weintraub les rejoignit et les serra tous les deux contre lui en entourant leurs épaules d'un seul bras. Dans l'autre bras, Rachel gazouilla de plaisir au contact de toute cette chaleur humaine. Le consul perçut l'odeur de talc et de nouveau-né qui se dégageait d'elle.
« J'ai eu tort, » murmura-t-il. J'ai une requête, moi aussi, à formuler devant le Gritch. Une requête en sa faveur.
Il caressa doucement la nuque chaude du bébé. Martin Silenus émit un rire qui se termina en une sorte de sanglot.
« Nos dernières volontés, » dit-il. « Je ne sais pas si les muses accordent aussi des faveurs, mais je ne demande rien d'autre qu'une fin pour mon poème. »
Le père Hoyt se tourna vers lui.
Est-ce si important qu'il ait une fin ?
Oh oui, oui, oui !
Grogna Silénus. Il laissa tomber la bouteille vide, plongea la main dans son sac et en sortit une poignée de pelure qu'il brandit vers le groupe comme une offrande.
« Voulez-vous les lire ? Voulez-vous que je vous en donne lecture moi-même ? Je sens que cela me revient. Relisez le début. Relisez les chants que j'ai écrits il y a 3 siècles et qui n'ont jamais été publiés. Tout est là. Absolument tout. Nous sommes tous dedans. Vous, moi, ce voyage. Ne comprenez-vous pas que je ne crée pas seulement un poème, mais l'avenir tout entier ?»
Il lâcha les pelures, ramassa la bouteille vide, fronça les sourcils et la leva comme un calice.
« Je crée l'avenir »
répéta-t-il sans redresser la tête.
« Mais c'est le passé qui a besoin d'être changé. Rien qu'un instant. Rien qu'une décision. »
Martin Silénus releva alors le front. Il avait les yeux rouges.
Cette chose qui va nous tuer demain, ma muse, notre donneur et notre repreneur de vie. Elle est venue vers nous à reculons à travers le temps. Mais elle ne me fait pas peur. Qu'elle me prenne, moi, cette fois-ci, et qu'elle laisse Billy tranquille. Qu'elle me prenne, et que le poème en reste là, inachevé pour l'éternité.
Il leva la bouteille encore plus haut, ferma les yeux et la lança violemment contre le mur opposé. Les éclats de verre réfléchirent la lumière orangée venue des explosions lointaines et silencieuses. Le colonel Cassade s'approcha du poète et posa une main au long doigt effilé sur son épaule. L'espace de quelques secondes, la pièce sembla rayonner de chaleur humaine. Puis le père Hoyt s'écarta du mur où il était adossé, leva la main droite, le pouce et le petit doigt unis, les 3 autres doigts serrés, dans un geste qui semblait l'inclure au groupe qui se tenait devant lui, et prononça à voix basse
« Ego te absolvo ».
Le vent crépitait contre les murs extérieurs et sifflait sur les gargouilles et les terrasses. La lueur d'une bataille qui se déroulait à 100 millions de kilomètres de là donnait au groupe des colorations rouge sang. Le colonel Cassade se dirigea vers la porte. Les autres se séparèrent.
« Essayons de dormir un peu »,
suggéra Brown Lamia. Plus tard, dans la solitude de son rouleau de couchage, écoutant les plaintes et les hurlements du vent, le consul posa la joue contre son paquetage et remonta la couverture rêche sur sa tête. Cela faisait des années qu'il n'avait essayé de s'endormir paisiblement. Il pressa son poing crispé contre son autre joue, ferma les yeux et sombra presque aussitôt dans le sommeil.